Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque numéro 11, première partie, 3, 2, 1, 0. Radio Barque 11e de la saison, bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Catherine Bossis.
Bonjour.
Alors Catherine Bossis, comme c'est la tradition dans cette émission, nous reviendrons très largement sur votre interview en troisième partie. Je rappelle quand même que vous pourrez intervenir aussi en première et deuxième partie à tout moment.
Très bien.
Je rappelle aussi à nos auditeurs que vous êtes conseillère municipale à Narbonne, conseillère municipale d'opposition, et que vous êtes depuis 7 ou 8 mois environ conseillère départementale. Chargée notamment, alors je crois que c'est la 8e vice-présidence,
c'est bien ça.
Chargée de l'enfance, de l'inclusion sociale et du logement. On va revenir bien entendu très largement sur ces responsabilités que vous assumez au sein de l'Assemblée départementale. Je rappelle aussi très brièvement que vous avez créé une certaine surprise lors des dernières élections. Alors on disait cantonale, on dit maintenant départementale, en remportant avec votre binôme l'élection, mais surtout en battant sur une circonscription à la fois narbonnaise et cruissanaise, en battant le maire sortant Didier Mouly. Donc à l'époque, si je puis dire, vous êtes entré de plein pied dans la politique locale narbonnaise par cette performance-là. Le sommaire, nous parlerons avec Michel des événements nationaux et éventuellement de quelques répercussions locales. Après quoi, même si cette campagne pour les régionales a marqué une pause, elle est là, elle est incontournable et on ne peut pas l'éviter. Donc nous parlerons de ceci. Alors Michel aime bien parler de Sorel, c'est sa Sorel story. Encore que maintenant il y a une deuxième story sous forme de saga qui est celle de Delga. Donc bien entendu, Michel Santo traitera de ces sujets-là à la suite de blogs qui ont été écrits dans la semaine. Puis on terminera quand même en disant un tout petit mot de nos Qataris. De l'avenir du club Racing Club Narbonnais. Est-il qatari ou est-il encore australien? On va répondre à ces questions. Alors Michel, tout d'abord, les fameux événements de quelques 10 mois après la fusillade contre les journalistes de Charlie Hebdo.
Oui, parce que quand nous nous sommes quittés, Jean-Claude, évidemment, nous nous sommes quittés sereins,
les choses,
joyeux, presque. L'émission avait été, je pense,
joyeux comme quand on sort de Radio Bar, Michel.
Exactement. Et le lendemain, comme tous les Narbonnais et les Narbonnaises, comme tous nos compatriotes, ce fut la stupeur, la sidération, la colère, l'incompréhension, bref, tous les mots que chacun a peut-être à l'esprit et que je ne peux pas décliner maintenant,
serait trop long. Encore que les analystes n'étaient pas véritablement surpris, peut-être par la dimension du phénomène, mais pas par le phénomène lui-même.
Mais quand même, le territoire national... un commando lourdement armé de Kalachnikov, d'explosifs, qui entre dans un lieu fréquenté par des jeunes de tout.
Oui, c'est dur à encaisser, ça, c'est certain.
De toute origine, de toute confession, et qui massacre comme ça à l'aveugle, sans état d'âme, avec une froideur méthodique, des personnes fanatisées à l'extrême. Est commandité par un proto-État qui aujourd'hui est enfin au centre et la cible de tous les États concernés par cette peste islamiste radicale. Voilà, donc on ne pouvait pas ne pas dire quelques mots sur cet événement et constater qu'effectivement, comme l'a dit notre président, et en utilisant le mot qui, je crois, convient, même si aujourd'hui nombre de personnes le contestent dans son essence même, à savoir que nous étions en guerre contre le terrorisme islamiste radical, il faut donner des noms aux choses. Le Premier ministre lui-même l'a clairement dit.
La nouveauté, c'est que ce phénomène se produit chez nous. Mais n'oublions pas que c'est le quotidien dans certains pays aujourd'hui. La Syrie, le Liban qui est en train de...
C'est ce que j'allais dire.
La Turquie maintenant, sans mort il y a quelques semaines.
C'est ce que j'allais dire, Jean-Claude. Notre pays est une victimes comme le sont en fait les victimes qui sont l'objet de ces assassins en Irak, au Liban dernièrement, en Afrique noire, en fait au Nigeria par des succursales de l'État islamique comme Boko Haram, enfin qui raptent en fait des cohortes de jeunes filles pour les vendre comme esclaves sexuels en fait auprès de leurs jouailles en fait. Donc on est dans une situation qui était bien, je crois, posée en fait et décrite par le président de la République et son gouvernement, soutenu d'ailleurs par l'immense majorité des députés de l'Assemblée qui ont voté clairement la poursuite de l'état d'urgence dans notre pays, suspend un certain nombre de libertés publiques, mais qui, dans la circonstance présente, sont tout à fait, de mon point de vue, indispensables et qu'il faut soutenir.
Et ce qui t'a amené justement à écrire un billet sur la notion de sécurité,
oui.
Jadis valeur plutôt attribuée au parti de droite.
Oui, pourquoi?
Parce que j'ai assumé aujourd'hui par la gauche.
Mais évidemment, parce que dans ce genre de circonstances qui révèlent quand même une situation larvée dans notre pays qui a pris une dimension explosive, en fait, une violence extrême, en fait, à travers ces attentats, l'on est dans une situation où l'on ne peut plus, en fait, faire l'impasse sur des mots pour tout simplement exprimer, en fait, une réalité, voire une nécessité. Et il est vrai que pendant de nombreuses années, pour ne pas dire plus, un marqueur politique était systématiquement avancé sur la scène politique pour séparer en fait la gauche de la droite.
Et ce marqueur,
c'était effectivement la sûreté. Comme si effectivement le droit à la sûreté et tout ce qui en découle ensuite, hein, le droit à la protection, en fait, des mesures policières, en fait, des mesures, etc., était effectivement, il faut le dire, en fait, hein, par certains partis de la gauche, considéré comme une valeur négative.
Comme si ça n'était pas une des valeurs régaliennes fondamentales de l'État, quel qu'il soit d'ailleurs.
Et faut-il rappeler ici que quand on lit la Déclaration des droits de l'homme, c'est un des premiers articles, le droit à la sûreté.
Absolument.
Donc c'est la situation nouvelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que nos gouvernants, qui se situent clairement à gauche, et il n'y a pas à faire quelques procès d'intention, en fait, aux gouvernants à qui j'attribue ce qualificatif, bien sûr. Hein, ils ont été élus par suffrage universel, ils sont légitimes. Donc ce gouvernement, dont une partie, disons, des forces militantes, prenait en fait ces termes de sûreté, en fait, et de droit à sûreté avec des pincettes, et leur renvoyait systématiquement ceux qui les exprimaient de manière plus ou moins forte dans le camp de la droite, voire de l'extrême droite. J'ai encore le souvenir de Kamadis, il y a encore pas très longtemps,
absolument.
Il y a 3 semaines, qui définissait le bloc réactionnaire composé de la droite républicaine, de l'extrême droite,
comme un bloc
sécuritaire.
Oui, sauf que là, il se retrouve au pied du mur, véritablement.
Ce que je veux dire dans mon bloc, c'est qu'aujourd'hui, bon, il ne peut plus tenir ce genre de discours, puisqu'effectivement, dans les mesures concrètes prises par son propre gouvernement, un certain nombre de mesures étaient proposées par la droite, voire même l'extrême droite. Donc, s'il y avait quelque chose de positif, entre guillemets, à faire valoir de cette situation dramatique à laquelle nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, plus personne, dans le camp politique de droite ou de gauche, ne peut dire que le droit à la sûreté et toutes les conséquences qui en découlent en termes juridiques, c'est un marqueur qui clarifie la droite de la gauche et qui renvoie en fait à la droite ceux qui osent effectivement en exprimer la nécessité, voire le devoir.
Voilà, en fait, des événements qui, d'un certain point de vue, remettent les pendules à l'heure.
Aucun de cas remet effectivement la classe politique dans son intégralité devant des responsabilités qui, en l'espèce, l'obligent à tenir un discours qui ne peut plus se contenter de débats faussement idéologiques et faussement politiques, et qui tient en fin de compte de la réalité à laquelle nous sommes.
On marque une première pause.